Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Présence pour un nouveau numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Même si l'on a l'impression que l'étau des consignes, des contraintes sanitaires se resserre, les musiciens et le public peuvent encore fréquenter les salles de concert et d'opéra de notre région. Les protocoles de protection y sont scrupuleusement respectés, alors n'ayez pas peur, ne renoncez pas au plaisir d'aller écouter de la belle musique. Nous, à Mélomanie, on ne s'en prive pas, comme vous allez pouvoir le constater, avec ceux qui ont accepté de participer à cette émission où je retrouve le fidèle Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et où je salue le retour de Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. À leur côté, je salue aussi Clément Lanfranchi, notre invité d'honneur. Il est pianiste, claveciniste, organiste, chef d'orchestre, chanteur et fondateur, directeur artistique du Consort Apollon. Il est en concert avec eux le lundi 5 octobre à Toulouse, à l'église Saint-Pierre des Chartreux, avec un programme entièrement consacré à Jean-Sébastien Bach. Nous allons découvrir ce programme et le Consort Apollon avec lui en seconde partie d'émission, puisque dans les médias, nous allons revenir sur l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et ce retour arrière va être plutôt court cette semaine puisque l'actualité s'est réduite à quelques concerts de piano jacobin. Le festival se terminant d'ailleurs ce dimanche 27. Nos agendas respectifs ne nous ayant pas permis d'assister au récital d'Ivo Pogorelitch mardi. C'est sur le seul concert de David Kadouch donné mercredi au cloître des Jacobins que nous allons revenir. Vous y étiez Serge. Quel programme a joué le jeune pianiste français et comment s'en est-il tiré ce soir-là? C'était un programme aussi copieux que varié.
Oui, mais les choses ont un peu changé. Le programme a été légèrement modifié. Puis il faut quand même préciser que c'était le dernier concert qui se déroule dans le cloître des Jacobins, dans la salle capitulaire et sur les côtés aussi, puisqu'il y avait pas mal de monde, c'était à peu près plein, étant donné la jauge réduite qui est accordée à toutes les manifestations actuelles. Donc, David Kadouch est un pianiste qu'on connaît bien à Toulouse, hein. Il est de Nice, hein. Il a fait le conservatoire de Nice, puis le conservatoire de Paris, il a eu des professeurs prestigieux, hein, puisque d'abord il a été dans la classe de Jacques Rouvier au CNSM.
Un ancien élève de Jacques Rouvier.
Oui, puis ensuite il a rejoint la classe de Dmitri Bachkirov, grand pianiste qui exerce à l'école supérieure de musique Reine Sophie à Madrid. Plus, il s'est quand même perfectionné auprès de gens assez connus comme Murray Peraya, Maurizio Pollini, Maria João Pires ou Daniel Barenboim.
Oui, il y a de bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau à ce garçon.
Donc, c'est quelqu'un qui a une belle culture musicale et pianistique. Et là, il a prévu un programme particulier, un parcours particulier, puisqu'il a tenu à faire une espèce de confrontation fructueuse entre des compositeurs romantiques comme Chopin. Chopin a été peut-être le compositeur qu'il a le plus joué au cours de cette soirée. Et des compositrices, donc ce qui quand même est encore rare. Et donc il est à deux compositrices dont il a tenu à jouer des œuvres. C'est d'une part Louise Farenc, compositrice française assez peu connue, on peut dire.
Je pense que le grand public ne la connaît pas du tout.
Et qui vraiment est en quelque sorte, si je peux employer ce mot, une précurseuse en son temps, puisque ça a été une des premières à être professeure de piano. Et elle a obtenu, nous a rappelé David Kadouch d'ailleurs, elle a obtenu d'être payée autant que les professeurs masculins de l'institution.
Au Conservatoire de Paris.
Au Conservatoire de Paris, oui, oui. Donc vraiment, c'est quelqu'un d'intéressant. Et puis deuxième compositrice, alors celle-là un peu plus connue, c'est Clara Schumann, donc l'épouse de Robert. Elle quand même, on commence à bien la connaître. Et puis donc, sa soirée s'est divisé en deux parties, avec tout d'abord deux œuvres de Chopin qui entouraient une œuvre de Louise Farenc. Alors les œuvres de Chopin, il les a attaquées par les trois nocturnes de l'opus 9, qu'il a jouées avec vraiment une sensibilité, une douceur, une délicatesse, une tendresse qui était tout à fait en situation, avec quand même cette noirceur qui apparaît de temps en temps. Et puis la deuxième œuvre de Chopin, c'était le scherzo numéro 1. Alors là, c'est l'inverse, hein. Ça, c'était bouillonnant, là, vraiment. Et entre les deux, donc, une œuvre de Louise Farenc, que j'ai découverte, évidemment, et qui s'appelle Air russe varié. Bon, opus 17, si j'ai bien noté. Donc, thème et variation, avec un thème qui, bizarrement, ressemble un peu à la Marseillaise. Mais énormément de variations, très diverses, très opposées, qu'il a joué avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de fantaisie. Donc, très beau. Donc, ça, c'était la première partie du concert. En deuxième partie, eh bien, il a ouvert la deuxième partie par une œuvre de Clara Schumann, qui n'est autre que les variations sur un thème de Robert Schumann. Ça, c'est une œuvre qu'on entend un peu quand même de Clara, une belle œuvre, consistante, hein, longue, qui a aussi ses thèmes et variations, et qu'il a joué avec vraiment beaucoup de tempérament et beaucoup de finesse, surtout. Et puis ensuite, alors, une autre œuvre très célèbre de Chopin, la valse opus 64 numéro 2, bon, ça très bien. Mais les deux œuvres de Chopin qui terminaient sa deuxième partie encadraient une œuvre de Saint-Saëns qui, par contre, venait faire contraste avec les œuvres brillantes de Chopin, puisque la deuxième œuvre, c'était la quatrième ballade. C'est solide, hein, comme œuvre pianistique. Et donc, entre les deux œuvres de Chopin, c'était la valse nonchalante de Saint-Saëns, une valse d'une belle douceur, très belle, très romantique. Donc, vraiment, un programme très intéressant. Il faut dire que ce programme a été réalisé avec le soutien de la Fondation Palazzetto Bruzane, qui pousse un peu à la...
C'est le centre de la musique romantique française.
Exactement.
Même s'il n'est pas basé en
même
France.
Même s'il est à Venise.
Il est à Venise.
Oui, oui.
Donc, il soutient beaucoup d'initiatives dans ce domaine.
Oui, oui. Enfin, oui. Voilà. Et là, l'initiative correspondait tout à fait à ce caractère et à ce que souhaitait la Fondation. Et puis, évidemment, comme il a été très applaudi, il est revenu et il a donné deux bis. Alors, le premier bis, il a beaucoup échangé quand même avec la salle. Hein, et il a dit... Ce retour devant un public, c'est un miracle. Alors je vais vous jouer Jésus comme ma joie demeure de Bach. C'était vraiment étonnant.
Il fallait y penser, oui.
Ah oui, c'était très très beau cette idée de sa part. Il a joué. Alors on sait tous que Jésus comme ma joie demeure, c'est un choral, hein, de cantate. Donc il a joué évidemment une version piano. Mais alors j'avoue ne pas avoir reconnu vraiment la version habituelle. Et donc j'ai l'impression qu'il a dû y mettre de lui-même pour la transcription.
Un peu improvisé dessus, vous voulez dire peut-être.
Non, pas vraiment improvisé, mais. Fait ressortir certaines voix. Enfin, c'était vraiment très intéressant.
C'est un arrangement à sa façon, en tout cas.
En tout cas, très beau, très bien fait, et qui a été très applaudi, bien sûr. Et puis ensuite, il a rejoué une pièce de Clara Schumann, de nouveau, parce qu'il ne pouvait pas quitter le cloître sans revenir à ce qui était le côté un peu exceptionnel du programme, c'est-à-dire des compositrices. Et donc, il a terminé par Clara Schumann.
Alors, j'ai vu que Louise Farinck, qui en fait est née Jeanne-Louise Dumont. Farinck, c'était son nom de femme mariée.
Oui,
née en 1804, morte en 1875. Donc, c'est vraiment une contemporaine de Chopin, Liszt.
Tout à fait.
Voilà,
tout
de la grande génération romantique. Et elle a trois symphonies à son actif. Je pensais qu'elle n'avait écrit que des petites pièces de musique de chambre ou pour piano. Non, il y a trois symphonies.
Mais il faut préciser qu'elle a été très soutenue par son mari.
Oui,
hein.
oui.
Donc,
absolument.
C'est très bien. Hein,
Déjà, pour intégrer le Conservatoire de Paris en tant que professeur, comme on dirait aujourd'hui, c'était à l'époque, c'était quand même très très rare.
Un challenge.
Très très rare. Bon, alors écoutez, on va retrouver David Cadouche au piano dans l'exécution d'une des pièces qu'il a jouées mercredi au Jacobin, le Scherzo numéro 1, opus 20 de Frédéric Chopin. Thank you. Le Scherzo numéro 1, opus 20 de Frédéric Chopin, interprété par David Cadouche, une des pièces qu'il a jouées mercredi au Cloître des Jacobins. Le festival Piano Jacobin se termine donc ce dimanche. Comme se termine cette courte première partie d'émission, nous faisons une toute petite pause avant de retrouver Serge Chosy, Robert Pénavert et Clément Lanfranchi, notre invité d'honneur. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Suite de ce numéro de Mélomanie avec Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, avec Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur Clément Lanfranchi, fondateur et directeur artistique du Consort Apollon, en concert lundi 5 octobre à 20h30 à Toulouse, dans l'église Saint-Pierre des Chartreux, avec un programme tout Jean-Sébastien Bach. Nous allons bien sûr en parler avec Clément Lanfranchi, mais avant cela, si Robert Pénavert est présent dans ce studio, c'est évidemment parce qu'il va être question d'opéra dans cette émission. Et en effet, c'est la rentrée pour le Théâtre du Capitole avec 7 représentations de Così fan tutte du 26 septembre au 11 octobre. Robert va se faire un plaisir de nous présenter cette production où il va y avoir plusieurs prises de rôle. Mais tout d'abord, un peu d'histoire. L'opéra de Mozart, le dernier de la trilogie d'Aponte, a-t-il souvent été représenté à Toulouse? J'ai dans l'idée que oui.
Oui, non. En fait,
ne me contrariez pas.
D'entrée, mais c'est la vérité, Eric, c'est la vérité. En fait, l'opéra de Mozart, bon, ce Così fan tutte a été apprécié de manière très nuancée par les Viennois lors de la création. Les Allemands l'ont un peu mieux reçu, mais bon, finalement, il n'a pas fait une énorme carrière. Pour preuve, par exemple, la Scala de Milan l'a affiché pour la première fois en 1814 et l'a laissé tomber pendant 130 ans. Le titre n'est jamais réapparu à l'affiche de la Scala de Milan. Donc la reprise moderne date du début des années 40 à la Scala de Milan. C'est pareil en définitive pour le Metropolitan, pour Londres, pour Paris. Alors en fait, on peut se demander pourquoi cet opéra qui pour moi est peut-être de la trilogie d'Aponte qui est pour moi le plus pur chef-d'œuvre. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, parce que c'est un livret original, mais ce n'est pas que pour ça, bien évidemment. Mais ce livret original, Lorenzo da Ponte, en fait, enfile les lieux communs, enfin, des choses vraiment relativement banales. Par exemple, le thème du déguisement, le thème des femmes infidèles, le thème du Paris, qui était très, très à la mode, évidemment, au XVIIIe siècle. Et malgré ces thèmes, qui ne sont pas très originaux pour le coup, Mozart a fait un chef-d'œuvre. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut-être aussi a dérouté le public du 19e siècle et du coup ce public l'a un peu laissé tomber. C'est tout à fait regrettable mais maintenant fort heureusement Così fan tutte a repris sa place qui est celle des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'opéra. Alors pour en revenir au Capitole de Toulouse.
Et à Toulouse.
Bah, bien évidemment, la Capitole de Toulouse ne pouvait pas passer a priori bien bien avant la Scala de Milan. En fait, Mozart n'était pas énormément donné, et à Toulouse en particulier. Alors ça, c'était une question de goût, vraisemblablement, du public. Le goût des directeurs d'opéra qui étaient plus portés, mais vraiment plus portés vers le répertoire français et le répertoire italien. Pourquoi? Parce qu'en particulier, ce répertoire-là faisait recette. Il ne faut jamais oublier qu'un directeur d'opéra est aussi un gestionnaire. Ensuite est arrivé Wagner. Wagner qui a un peu monopolisé tout ce qui était non français, non italien. Voilà. Et donc Mozart n'avait pas sa place, très clairement. Et d'après les recherches que j'ai pu faire, je retrouve la première trace d'une représentation de Così fan tutte au Théâtre du Capitole lors de la saison 45-46 oui. Du XXe siècle.
Donc, immédiat après-guerre. Hein.
Voilà. C'est l'opéra de Genève qui est venu le présenter sous la direction de Otto Ackermann. Alors vous savez, à cette époque-là, qu'est-ce qui se passait? Comme vous disiez très justement, l'après-guerre. On s'étonne très souvent, on dit, à Toulouse, on avait tout Bayreuth qui venait, ce qui est vrai d'ailleurs, ce qui est vrai. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, les théâtres allemands étaient fermés, parce que l'Allemagne avait bien d'autres choses à faire qu'à financer l'art lyrique, et on le comprend. Et donc, tous ces chanteurs, eh bien, étaient bien contents de venir chanter dans des théâtres de province, en France, en Angleterre, en Italie, etc. Et voilà pourquoi, au Théâtre du Capitole, on a eu des représentations intégralement qui avaient été affichées à Bayreuth. Eh bien, pour Mozart, c'est pareil. Mozart était, alors d'abord, comme Mozart est très difficile à chanter, tout le monde en conviendra, en fait, dans le début du XXe siècle, c'était les grands chanteurs internationaux qui étaient monopolisés par Vienne, Londres, New York, Paris, évidemment, et les festivals, Salzbourg, Munich, etc. Et donc, nous, ici, à Toulouse, on n'avait pas trop très clairement les moyens d'avoir ces gens-là. Mais bon, en 1946 très exactement, l'Opéra de Genève a été convié au Théâtre du Capitole sous la direction d'Otto Ackermann, qui était un grand chef d'orchestre.
Un très grand chef, hein, qui a beaucoup enregistré d'ailleurs aussi. Hein.
Alors ensuite, il faut attendre quand même, s'ils ne l'ont pas redonné l'année d'après, hein, il faut attendre 10 ans, donc 1956, pour revoir ce cosy, alors évidemment, comme ça faisait à l'époque en français, bien sûr. Hein. Mais là, c'était avec la fine fleur du chant français, et alors Jacqueline Brumaire, Jean Giraudot, Louis Noguera, Pierre Fomenti, et c'est dirigé par Georges Sébastien, qui est souvent venu à Toulouse dans une mise en scène de Georges Hirsch. Voilà, tout ça, ce sont des noms qui parlent à certains autour de cette table et pas à d'autres. Voilà.
Je n'ai rien dit, moi.
Bon, mais,
je n'ai rien
voilà.
dit.
Ensuite, il faut attendre 10 ans de plus, dont nous sommes là maintenant en 1966, avant la réapparition de ce chef-d'œuvre au fronton du Capitole. Et là, c'est une production de Michel Crochot qui vient d'Aix-en-Provence avec un ténor suisse fabuleux. C'était Eric Tapie.
Ah oui, oui. Grand professeur aussi.
Ensuite, 1978, c'est Jacques Doucet qui nous propose sa mise en scène d'un nouveau cosy dans les décors et costumes des Vakevitch, monsieur et madame, bien sûr, avec une superbe fiordiligi d'une, comme on dit, d'une païse, puisque c'était une cherçoise, c'était Michel Commande, qui était toute jeune, elle avait 30 ans. Voilà, mais tout ça, c'était toujours en français. Et donc, il va falloir attendre un peu de temps, pas mal quand même, 1981, pour avoir une représentation en langue originale avec un grand baryton norvégien, Knut Schramm, et un baryton basse britannique dans Don Alphonse, Richard Van Allen. Et en 1986, Recosy, qui quand même est donné plus régulièrement, avec un inusable Don Alphonse, paix à son âme, puisqu'il nous a quittés il y a peu de temps, qui était notre baryton.
Gabriel Baquet,
voilà, un comédien hors pair, et qui faisait un Don Alphonse. Il s'était son Don Alphonse.
À nul autre pareil.
Et puis ensuite, il y avait une très belle Despina, qui était jeune, tous ces gens-là, je ne parle pas de Gabriel Baquet, mais tous les autres étaient jeunes à cette époque, c'était Daniel Borst qui faisait Despina. Voilà. Alors, 1990, Recosy à nouveau, avec une jeune mezzo-soprano italienne de 24 ans.
Ah,
voilà.
Qui donc?
Maintenant, tout le monde entier la connaît, bien sûr, mais à cette époque, elle faisait ses débuts en France, hein. Voilà, c'était Cecilia Bartoli qui a été invitée à chanter au théâtre du Capitole. Voilà, bon, avec un très beau ténor, Donald Cash, et une soprano anglaise dans Despina aussi extraordinaire, Lillian Watson. Donc, malheureusement, Cecilia Bartoli n'est jamais revenue au théâtre du Capitole.
Elle vient à la Lohengrin, d'ailleurs, elle viendra dans quelques mois.
Voilà. Et puis ensuite, il y a deux dernières représentations, parce que Cosy disparaît après Cecilia Bartoli, je parle de l'œuvre à l'affiche, pendant 16 ans, et il faudra attendre 2006. C'est Nicolas Joël, alors qui a une idée absolument géniale, alors Strehler, avant de décéder en 1997, avait imaginer une production pour le Piccolo Théâtre de Milan de ce Cosy fan tutte, mais malheureusement, bon, il n'a pas eu le temps de la monter. Mais c'était dans les cartons, c'était fait. Voilà. Et Nicolas Joël le savait. Et donc, il savait qu'il y avait cette production dans les cartons. Et bon, il l'a fait venir. Et donc, on a eu post-mortem une production de imaginé par Giorgio Strehler de Cosy fan tutte et au théâtre du Capitole. Alors évidemment, c'était pas lui qui faisait la mise en scène. Et c'était dirigé par Klaus-Peter Flor, qui avait souhaité que l'orchestre se dote d'un instrumentarium baroque. Et donc, avec des timbales baroques, avec une flûte baroque, etc. Moi, j'ai un très, très grand souvenir de cette représentation, avec une belle distribution, mais très clairement, les dames se singularisaient particulièrement. C'était Tamara Ivery en fiordiligi et Sophie Koch en Dorabella et en Despina, Anne-Catherine Gillet.
Tiens donc,
qui, nous allons le voir, change de tenue.
On
va
en parler dans quelques instants.
Et dernière représentation à Toulouse, donc, c'est une production de l'Atelier Lyrique de Tourcoing, dans la mise en scène d'un Toulousain, Pierre Constant, une mise en scène d'une intelligence absolument renversante, avec trois bouts de ficelle, un lit, etc. Il est arrivé à nous faire pénétrer dans cet imbroglio amoureux avec une émotion, une virtuosité extraordinaire. Et là, pour le coup, ce sont les hommes qui ont été clairement, disons, un peu plus à l'honneur, parce qu'il y avait Alex Esposito, Saïmir Pirgu et Bruno Tadilla. Eh bien, je peux vous dire que ça faisait un trio de, entre guillemets, de mâles absolument extraordinaire. Voilà pour les dernières représentations au Télécapitole. Je suis sûr que peut-être au 19e siècle, mais peut-être qu'il y a eu des représentations, ouais. Mais personne n'en a
la trace.
Voilà.
Alors, quelle production allons-nous voir à Toulouse dans quelques jours? Quelle mise en scène? Quelle distribution? Il y a donc plusieurs prises de rôle, à commencer par celle de la soprano belge Anne-Catherine Gillet, qui va interpréter sa première Fjordiligi.
Voilà, alors, si vous voulez bien, Eric, avant d'évoquer cette distribution, je souhaiterais parler du changement de programme.
Oui.
Voilà, parce qu'en fait, c'était pas du tout cet opéra qui était prévu, c'était Les Pêcheurs de Perles, qui était prévu depuis 3 ans déjà, avec une distribution.
Qui était bien arrêtée aussi.
Un ténor, un baryton, une soprano, une basse. Voilà, Les Pêcheurs de Perles, il faut 4 solistes, c'est tout. Hein. Bon, voilà. Mais par contre, il faut un orchestre important,
visé. Et là, c'était pas possible.
Visé. Il faut des chœurs importants. Il faut un ballet, et donc très clairement, au mois de mai-juin, Christophe Christy a dit non. Moi, ça, je ne peux pas le faire, c'est impossible, je ne vais pas y arriver. Et Christophe Christy, vraiment, je le salue, je tiens à le saluer.
Oui, parce que...
Parce que Christophe Christy n'a pas adopté certaines attitudes de certains directeurs de théâtre en disant, bon, moi, je ne change pas, mais bon, il n'y a plus d'orchestre, il y a un piano, je coupe les récitatifs, etc. Ils en donnent des versions extrêmement édulcorées des œuvres.
Même appauvries.
Ouais. Bon, bah, par exemple, dans un festival allemand que je ne citerai pas, ils ont donné Tristan et Electra au piano. Christophe Christy n'a pas voulu de ça. Il a dit, ou je fais les choses ou je ne les fais pas. Voilà. Et donc, il s'est dit, bon, que faire? Alors, en fait, il avait en tête une trilogie qu'il avait vue à Versailles, qui était une coproduction entre Versailles Spectacle et le théâtre suédois de Trollhättan, qui était mise en scène par Ivan Alexandre, dont tout le monde se souvient ici, d'Hippolyte et Arissi, qui est l'un des plus beaux spectacles que j'ai vu en 65 ans au Théâtre du Capitole. C'est l'un des plus beaux spectacles. C'était un chef-d'œuvre absolu, à tel point que l'Opéra de Paris, évidemment, s'en est emparé. Donc, c'est Ivan Alexandre qui a monté cette trilogie d'Aponte. Et en fait, Così fan tutte devait être donné à Bordeaux. Et donc, les décors étaient à Bordeaux, déjà, au moment où, crac, tout a été arrêté. Et donc, Christophe Grissi, sachant cela, bien, il s'est dit, Bordeaux, c'est pas loin, c'est à 2 heures en camion. Je vais récupérer les décors et je vais monter Così fan tutte. 35 musiciens au lieu de 65, pas de chœur à la marge, pas de ballet, 6 solistes, j'en ai déjà 4. Je vais leur demander s'ils sont d'accord. Et tu veux dire, tout le monde a dit amen. Hein. Voilà. Et donc, pour en revenir à Anne-Catherine Gillet, qu'on a souvent applaudi au Théâtre du Capitole, eh bien, pour le coup, Christophe Grissil a dit, je vous propose, en lieu et place de Leïla, de chanter Fjordiligi qu'elle n'avait jamais chanté. Bon, elle connaît l'œuvre puisqu'elle chantait Despina au Théâtre du Capitole. Donc, mais entre chanter Despina et avoir une collègue qui chante Fjordiligi à côté, c'est différent. Donc elle a dit, moi il me reste 4 mois, eh ben, je m'y mets, je tente le challenge. Et c'est un vrai challenge, parce qu'en fait, Fjordiligi est l'un des rôles les plus difficiles à chanter avec Constance de l'Alem Mosserac, parce que tout simplement, la créatrice du rôle avait une voix, même si ce n'était pas le premier choix de Mozart, mais elle avait une voix exceptionnelle. Et donc, il a écrit, comme ça se faisait beaucoup, il a écrit les rôles en fonction des chanteurs qu'ils avaient, et très souvent... en fonction des desiderata des chanteurs. Voilà. Et pour les mettre en valeur, et en mettant un chanteur en valeur, le compositeur en même temps s'assurait le succès de son œuvre. Donc voilà pourquoi Fjordiligi était un rôle très difficile à chanter, avec des sauts d'octave dès le premier air. Elle a un ambitus qui est le plus large de la partition. Voilà. Ça n'atteint pas l'ambitus quand même de Constance de l'enlèvement, mais finalement, on n'est pas très loin. Donc, elle est au point, puis j'espère, parce que ça fait maintenant un mois qu'il répète, qu'il travaille,
bien sûr,
donc il n'y a pas de problème. Alors après, il a fallu permuter tous les pêcheurs, dont la soprano c'était fait. Mais il y a trois hommes aussi dans Les Pêcheurs.
Alors Ferrando.
Il y a Nadir, qui était Mathias Vidal.
Qui va faire Ferrando.
Qui fait Ferrando, voilà. Oui. Mais il se dit auto-contre, ténor, auto-contre, voilà. Bon, ok, bah, pourquoi pas, il est ténor, auto-contre, chanter l'opéra comique à Salfavar, c'est pas un souci. Alors, c'est vrai qu'auto-contre aujourd'hui,
oui, c'est une autre connotation,
mais bon.
Mais parce que souvent, on confond auto-contre et contre-ténor,
ça n'a rien à voir.
Hein, ah, ça n'a rien à voir, ouais, bien donc, sûr. Donc, c'est Mathias Vidal qui a accepté de chanter Ferrando, en lieu et place de Nadir. Ensuite, il fallait trouver un baryton, ben, c'est le Zourga qui était là, qui est Alexandre Duhamel. Eh bien, bon, il dit, ok, moi je fais Guglielmo, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, il fallait trouver une basse, ben, on avait un Nour Abad. Alors, entre Nour Abad et Don Alfonso, quand même, c'est le grand écart, c'est... pas tout à fait les mêmes difficultés vocales. Mais bon, Jean-Fernand Setti, que je ne connais pas, bien a accepté le challenge lui aussi. Bravo. Et voilà, mais vous avez fait le compte n'y est pas, il en manque deux. Il manque évidemment Dorabella
et il
manque Despina. Alors là, quand même, on n'a pas pu les trouver.
On n'a pas pu
les trouver dans Les Pêcheurs de Perles.
On les cherchait ailleurs.
Christophe Christy s'est empressé d'aller contacter Julie Bouliane, qui est une jeune cantatrice québécoise, qu'on avait entendue ici dans Patrice et Bénédicte, qui faisait Bénédicte.
Très belle voix.
Et qu'on a retrouvé en 2018 dans la Clémence de Titus, où elle faisait Agno. Et également, j'en ai un très bon, c'est une voix très chaude, très chaleureuse, très ronde. Voilà. Et donc, elle va chanter Dorabella. Alors, la Despina, par contre, je ne la connais pas. C'est une soprano qui s'appelle Sandrine Buendia. Voilà, ça, je ne connais pas.
Je crois que c'est une prise de rôle aussi pour elle.
Voilà, donc ça va être la découverte. Et ça, c'est passablement excitant.
Oui, il y a beaucoup de prises de rôle, de nouveaux noms.
Voilà. Et puis alors, évidemment, la grande nouveauté quand même. Bon, on va avoir une chef d'orchestre.
Dans la fosse.
Alors, c'est pas la première fois, parce qu'on a déjà eu Madame Haïm
dans
la fosse.
Laurence Haïm, une fois.
Voilà. Oui. Donc, bon.
C'est
la deuxième fois, quand même.
La deuxième fois. Et puis Laurence Haïm, on la connaissait. Quand elle est venue, je pense, au Capitole, elle était déjà connue. Oui. Là, Speranza Scappucci.
Elle est connue.
Non, mais à Toulouse, je veux dire. En France.
Non, mais dans le monde, elle est connue. Elle dirige partout.
Oui, non, mais bien sûr. En France, je ne crois pas qu'elle se soit beaucoup produite jusqu'alors.
Alors, aujourd'hui, elle est directrice musicale de l'Opéra Royal Wallonie. Liège.
Oui, c'est ça.
Voilà, où elle dirige beaucoup de choses. Così fan tutte, elle devait le faire là, maintenant, à San Francisco.
Oui, voilà. Elle l'a déjà fait.
Elle
ne sera pas une première.
Ah non, c'est pas une première.
Pour elle, ce n'est pas une première. Hein.
Voilà. C'est terriblement excitant, finalement.
Oui, c'est ce que je me dis aussi. C'est un opéra très connu, mais avec beaucoup de découvertes pour nous tous.
Alors, la mise en scène est, on va dire juste deux mots, d'Ivan Alexandre, c'est une mise en scène de la trilogie.
Oui.
Les Noces Figaro, Don Giovanni, Così. Et lui, dans son concept dramaturgique, il y a un personnage qui est commun, c'est Cherubino. Cherubino, le jeune qui saute sur tout ce qui bouge dans Les Noces Figaro. Et qu'on retrouve, c'est Don Juan. Je parle pour le metteur en scène. Hein. On le retrouve dans Don Juan et on le retrouve un peu plus âgé dans Don Alfonso. Voilà.
Ah, c'est une belle idée. Hein.
Ouais, c'est une belle idée. Alors j'ai demandé à Christophe Christy, oui, mais est-ce que, en fait, pour comprendre l'histoire, est-ce qu'il faut avoir les trois ? Non, il me dit, là, non, mais Ivan Alexandre est assez malin pour avoir conçu une dramaturgie spécifique et compréhensible à chaque
production. Peut-être qu'on comprend plus de choses, mais ça ne nuit pas à la compréhension de l'œuvre. C'est surtout ça qui est important.
Absolument, Eric, oui, c'est ça. Alors, bon, je ne l'ai pas vu, cette trilogie, mais j'en ai lu des papiers de tous bords. Elle a été unanimement saluée. Unanimement. C'est très intelligent, c'est très fin, c'est... Voilà, bon, c'est Mozart, quoi, en fait.
Alors bien, comme il s'agit essentiellement de prises de rôle, évidemment, je n'ai aucun des chanteurs que vous allez entendre et voir au Capitole à vous faire écouter dans des airs de Così. Alors je vais vous proposer un des chœurs de l'opéra de Mozart, c'est à l'acte 2, Bella Vita Militar.
Thank you.
Bella Vita Militar, Belle Vie Militaire, cœur de l'acte 2 de Così fan tutte. L'opéra de Mozart est donc donné au Théâtre du Capitole lors de 7 représentations du 26 septembre au 11 octobre, avec Anne-Catherine Gillet qui va faire ses débuts dans le rôle de Fiordiligi, et Robert Pénavert me fait de grands signes. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ?
Simplement pour dire que, évidemment, bon, geste barrière oblige, le Capitole n'est pas en location totale, et à peu près la moitié, un peu plus de la moitié, et dont les premières représentations, elles sont pleines, hein, voilà. Mais par contre, je sais qu'il reste des places pour les 3 dernières représentations. Alors je dis, allez-y, parce que, bon, c'est pas trop de quoi demain sera fait, alors si vous voulez écouter de l'opéra, un bel opéra, un chef-d'œuvre, allez-y, précipitez-vous.
Ce que je vous invite à faire, c'est à consulter le site web du Théâtre du Capitole ou appeler la billetterie pour savoir s'il reste des places aux représentations où vous souhaitez aller. Et voici le moment de faire connaissance avec vous, Clément Lanfranchi, parce que vous êtes un tout jeune musicien, déjà très actif cependant. Vous êtes Toulousain, né à Toulouse, vraiment un vrai, un pur Toulousain.
Oui, tout à fait.
Et c'est à Toulouse que vous avez découvert la musique et que vous avez fait toute votre formation jusqu'au conservatoire à rayonnement régional. Et votre premier instrument, ça a été le piano, dès le départ.
Oui, tout à fait. Alors moi, comme vous le dites, je suis né à Toulouse et j'ai fait la première partie de mes études au conservatoire à Toulouse. J'ai fait 13 ans dans les classes de piano, musique de chambre et direction de chœur. Et j'ai passé tous mes diplômes au moment de mon baccalauréat. Et puis j'ai fait 2 années de perfectionnement en piano. Je pensais partir dans les conservatoires supérieurs de Paris ou de Lyon. Le destin en a voulu autrement. Et donc, comme j'ai toujours voulu faire de la direction, donc j'ai commencé, donc, comme je le disais, avec la direction de chœur dans la classe de Rolandas Mouleika, avec qui je travaille activement depuis plusieurs années maintenant. Je suis parti à Montpellier pour continuer mes études en direction d'orchestre, en accompagnement piano, en chant lyrique. J'ai fait un petit peu de continuo. Et puis, à ce moment-là, j'ai fait ma faculté aussi, en correspondance à Paris, à la Sorbonne. En musicologie. Et puis, une très très belle opportunité s'est offerte à moi, où l'Orchestre du Capitole et Tougan Sokiev ont créé la toute première classe de direction d'orchestre en supérieur, voilà, à l'ISDAT. Et j'ai eu la chance et le privilège d'en être un des premiers élèves. Et donc j'ai été diplômé il y a 1 an, j'ai fait mes 3 ans dans cette classe et depuis je fais tout pour me produire et faire des concerts le plus possible.
Alors, il faut peut-être en parler un peu plus précisément de cette classe de direction à l'ISDAT, oui. Donc l'Institut supérieur des arts de Toulouse, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce qu'évidemment il y a Tougan Sokiev qui la parraine en quelque sorte, mais tout il y a aussi Sabrié Bekirova.
Tout à fait. Alors Tougan Sokiev, c'était donc son idée de créer cette classe de direction et de donner des cours de direction dans la grande tradition russe, la tradition dont il est bien sûr issu, et évidemment la grande école de Liamoussine, professeur Liamoussine de Saint-Pétersbourg. Voilà, puisqu'en Russie, il y a 2 écoles, celle de Moscou et celle de Saint-Pétersbourg. Tougan Sokiev vient bien sûr de Saint-Pétersbourg, et il a appelé une grande, grande pédagogue qu'il connaît très bien, puisqu'ils ont eu le même professeur, Liamoussine, c'est bien sûr Sabrié Bekirova, qui est arrivée donc en 2016 à Toulouse, et qui s'est installée à Toulouse pour pouvoir donner ses cours de toute la semaine. Donc nous étions au conservatoire, dans les locaux du conservatoire, avec les pianistes de l'Orchestre du Capitole pour nos cours. Et puis, c'est Tougan Sokiev qui nous a parrainés tous les ans. Il continue encore aujourd'hui à faire que cette classe perdure. Et c'est une très grande chance, je pense, pour nous, jeunes artistes, jeunes chefs, d'avoir accès à ces cours ici à Toulouse.
Et une grande chance pour Toulouse, hein. Alors à un moment donné, quand on voit votre parcours là, qui semble très cohérent, il paraissait naturel que vous ayez envie d'avoir votre propre ensemble.
Oui.
Et donc, vous fondez le Consort Apollon, il n'y a même pas 1 an, c'est quoi, c'est début de l'année là ?
Janvier 2020, ouais. Voilà, il y a quelques mois.
C'est vraiment du millésime 2020. Alors, le nom quand même, Consort Apollon, expliquez-nous là. Parce que...
C'est vrai qu'on me pose la question assez souvent.
Non, mais ça peut être une référence à une œuvre ou à...
Alors, pas du tout. Le mot consort, pour ceux qui ne comprendraient peut-être pas le sens en musique, évidemment c'est un dérivé du mot famille, et on l'utilise beaucoup dans la musique quand on parle par exemple de consort de viol, consort de violon, consort de trompette, ou donc on joue avec un seul instrument, mais plusieurs instrumentistes, ou de la même famille de cet instrument-là. Il y a beaucoup d'œuvres, notamment de Marat Marais ou d'autres grands compositeurs baroques, qui composent pour consortes de viol et autres instruments. Et j'ai voulu utiliser ce nom parce que dans cet ensemble, je travaille avec des personnes que je considère un petit peu comme des membres de ma famille musicale. Voilà, ce sont des amis, ce sont des collègues. Et ensemble, avec vraiment une ambiance très familiale, nous essayons de monter ces programmes. Donc c'était vraiment ce petit clin d'œil. Et puis Apollon, non pas pour me comparer quand même à ce dieu, ce dieu des arts, mais c'est un dieu qui, dans la tradition grecque, apportait la lumière et apporter les arts aux gens. Et j'ai eu cette idée du Consort Apollon aussi pour donner à voir des concerts de musique ancienne et de faire en sorte que la jeunesse toulousaine, qui peut-être n'arrive pas encore à s'identifier à ce répertoire, à tout ce pan de culture qui est quand même assez immense, qui couvre plus de 2 siècles de musique, puisse voilà, s'identifier un peu à ce patrimoine et voir que ce patrimoine est encore vivant, puisque nous sommes tous des jeunes professionnels, nous avons entre 25 et 35 ans dans l'ensemble, donc nous sommes tous des jeunes professionnels et on montre que cette musique est encore vivante et que ça fait partie encore du patrimoine du monde, tout simplement. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce nom.
Alors justement, ceux qui vous accompagnent dans cette aventure, d'où viennent-ils ? Ce sont essentiellement des musiciens que vous avez fréquentés au conservatoire, donc des gens de la région toulousaine, ou il y en a qui viennent un peu plus loin ?
Alors, en règle générale, oui, ce sont donc des instrumentistes qui viennent du conservatoire de Toulouse, et plus particulièrement du département de musique ancienne, du conservatoire, qui est dirigé par
Gilles Colliard,
grand violoniste et très grand pédagogue, je tiens quand même à le souligner, qui a eu cette très belle idée de faire ce département il y a plusieurs années. Et donc, moi, j'y suis rentré l'année dernière pour continuer mes études, parce que, évidemment, on continue toujours d'apprendre. Et je me suis lancé dans ces études de continuo au clavecin. Donc, j'ai repris ces études, donc là, ici à Toulouse. Et j'ai découvert bon nombre de musiciens qui étaient vraiment partants pour créer cet ensemble. Donc, 90% de l'effectif vient de Toulouse. Mais j'ai eu aussi des instrumentistes qui viennent d'ailleurs, notamment pour le concert inaugural que j'ai fait en mars dernier. Il y avait une guitariste baroque qui nous venait de Bordeaux, une ancienne Toulousaine qui maintenant vit à Lyon, qui était au Traverso. Voilà, donc en effet, c'est vrai que Toulouse est bien représentée, je pense, dans cet ensemble.
Donc, le répertoire du Consort Apollon, c'est la musique ancienne au sens large, mais jouée sur instruments anciens également.
Exactement, la définition même de cet ensemble, c'est que je programme des concerts de musique ancienne, alors ça regroupe évidemment toute la période baroque, un petit peu la musique renaissance, il faut travailler un petit peu différemment, mais on peut aller quand même jusqu'à Mozart, finalement, puisque donc jusqu'au classique, puisque l'instrumentarium est vraiment bien pour ce répertoire-là, sur les instruments d'époque, avec, si possible, les diapasons d'époque, les tempéraments d'époque utilisés. Ce qui m'intéresse vraiment dans ce travail-là avec le consort, c'est de proposer des programmes comme on les avait écoutés à l'époque de leur création. Voilà, donc c'est pour moi très important et on a la chance d'avoir des instrumentistes qui ont les instruments avec eux, violon baroque, trompette naturelle, timbale baroque, etc., etc.
Alors, premier concert, vous l'avez dit, juste avant le confinement, vous avez de la chance, c'était au mois de mars, hein, à l'église Saint-Pierre des Chartreux, et donc le prochain, le 5 novembre, sera donné au même endroit.
Le 5 octobre,
bien sûr. C'est votre port d'attache, Saint-Pierre des Chartreux ?
Alors, comme on
c'est
souhaitait...
une résidence, vraiment ?
Alors, c'est devenu finalement un lieu de résidence. D'abord, je voulais me rapprocher, comme je le disais, de la jeunesse, des jeunes générations, et comme nous n'avons pas encore accès à des salles de concert, pour des raisons évidentes de budget. Évidemment, nous nous tournons vers les églises qui ont des acoustiques notamment, vraiment magnifiques à Toulouse. On a beaucoup de chance d'avoir des édifices comme la chapelle des Carmélites, Saint-Pierre des Chartreux, l'église du Jésus. Nous avons des acoustiques formidables, notamment pour les enregistrements. Et Saint-Pierre des Chartreux est un lieu que je connais bien. J'y ai enregistré d'ailleurs, j'étais dans l'équipe du dernier enregistrement de Rolandas Moleïka et avec l'ensemble Antiphona. C'était à Saint-Pierre des Chartreux. C'est une acoustique que je connais très bien, qu'il est parfois difficile de maîtriser, mais qui peut donner aux œuvres vraiment une élégance toute particulière. Et donc, comme il y a aussi la paroisse étudiante qui est là-bas, il y a donc beaucoup de jeunes qui arpentent la nef de cette église, je me suis dit ça pourrait être un début pour faire venir les jeunes générations, les jeunes étudiants, les jeunes professionnels, en plus de tous les mélomanes toulousains, et on l'espère qu'ils viendront nombreux au fur et à mesure. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes rapprochés de Saint-Pierre des Chartreux, et c'est devenu le lieu de résidence pour 5 dates pour cette toute première saison 2020-2021.
Et c'est un lieu magnifique en plus, hein, oui. Vraiment splendide. Nous allons regarder avec vous le détail du programme que vous allez jouer le 5 octobre avec vos camarades. Mais d'abord, un premier extrait pour nous mettre dans l'ambiance. Il s'agit de la suite en sol mineur BWV 1070 de Jean-Sébastien Bach, le deuxième mouvement, Tornéo. Thank you. deuxième mouvement Tornéo de la suite numéro 5 en sol mineur BWV 1070 de Jean-Sébastien Bach. C'est la première œuvre au programme de votre concert du 5 octobre avec vos amis du consort Apollon et toute la soirée est dédiée à Bach. Il y a une raison particulière à cela ?
Alors, pour construire ma saison donc, que j'ai faite pendant le confinement, je voulais donc faire 5 concerts. Évidemment, c'est vrai que pour commencer une saison, par quoi commencer ? Il faut marquer les esprits et en même temps, il faut que ce soit accessible. Il faut des œuvres connues et pourquoi pas aussi des découvertes. Je tiens quand même à souligner que le Consort Apollon, pour moi aussi, c'est une manière d'introduire, pourquoi pas, des œuvres ou des compositeurs moins connus dans les programmes. Un compositeur ou une œuvre. Et c'est le cas avec cette ouverture numéro 5, BWV 1070 de Bach. Alors pour en revenir à Bach, je pensais vraiment, voilà, par rapport au rassemblement du public, Bach parle à tout le monde. C'est un compositeur, on en parle vraiment depuis des années, qui est considéré comme un maître de la musique, voire même le père de la musique occidentale et savante. Et quoi de mieux que de commencer la saison et d'être, on va dire, sous la protection, on va dire, de Jean-Sébastien Bach pour ce premier concert.
La bienveillante protection. Jean-Sébastien Bach.
Et puis le fait de jouer des suites, c'est important parce que les suites en allemand, ça s'appelle ouverture.
Tout à fait.
Il a dit ouverture, il n'a pas dit suite numéro 5.
Oui, donc, tout à fait. On le dit en français, mais en allemand.
Oui. Et après, voilà, pour ce programme de Bach, il s'avère qu'en juin dernier, j'aurais dû jouer en tant que continuiste ce concerto pour deux violons qui est aussi programmé, BWV 1043. Et ça devait se faire au département de musique ancienne, évidemment. Le confinement a tout annulé et mes deux solistes, hein, Sophie Castin et Benjamin Borani, devaient le jouer. Je leur ai passé un coup de fil en leur disant « Est-ce que ça vous va si on fait ça pour le premier concert ?» Ils m'ont dit « Évidemment, on se remet à travailler ça. » Et puis, j'ai construit mon programme autour de cette œuvre-là. Donc, je l'ai encadré par deux suites, deux ouvertures, la numéro 5 et la numéro 3.
Donc, rappelez les deux violonistes qui vont jouer donc ce concerto.
Alors, ce sont deux violonistes qui font partie intégrante du Consort Apollon et qui, là, joueront les rôles de solistes. C'est Sophie Castin et Benjamin Borani.
Sophie Castin et Benjamin Borani. Donc, il y a ce très beau concerto pour deux violons BWV 1043 au programme. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait, le premier mouvement Vivace, très connu. Le premier mouvement Vivace du concerto pour deux violons BWV 1043, interprété ici par Itzhak Perlman et Pinchas Zuckerman. La deuxième œuvre de Bach que vous avez mise au programme de votre concert du 5 octobre à Saint-Pierre-des-Chartreux, Clément Lofranchi. Quelles sont ensuite vos prochaines dates avec le concert Apollon, sachant que nous sommes entrés dans une zone d'incertitude en raison de cette crise sanitaire qui se prolonge?
Alors, comme je le disais avant, il y aura donc 5 concerts, donc bien sûr celui de Bach le 5 octobre prochain. Il y a un concert le 7 décembre. novembre, même horaire, à 20h30, et même lieu, bien sûr, qui sera autour d'un programme autour des œuvres de Noël. Je l'ai intitulé Une nuit de Noël. Alors évidemment, il y aura des œuvres très connues, comme le concerto pour la nuit de Noël de Corelli, le même aussi de Torelli, qui est un peu moins joué, et une pièce que j'aime énormément, c'est la nuit sur les instruments de Charpentier.
Charpentier, oui.
Voilà.
Ouais.
Et puis d'autres œuvres, notamment je vais sûrement mettre une œuvre aussi de Corrette, qui est un compositeur un peu moins connu, très connu pour son étude des tempéraments, mais moins connu pour ses œuvres. Et puis on passera, je l'espère, les vacances de Noël, et fin janvier, le 25 janvier, un programme autour d'une suite, donc des extraits choisis des Indes galantes de Rameau, opéra que j'aime énormément. Un quatrième concert qui sera le 22 mars. Alors là, c'est un programme plutôt, je pense, de musique de chambre. J'ai intitulé un banquet musical en référence à la pièce de Shine, un banquet au musical. Donc ce sera un concert où on sera sûrement un par voix, deux par voix. On va essayer de faire un petit peu plus intimiste. Et puis un dernier concert, le 10 mai, pour clôturer cette saison, autour d'une œuvre absolument magnifique, qui s'appelle Les Éléments, de Jean Ferry Rebel, compositeur que j'ai déjà interprété en mars dernier, avec ses caractères de la danse. Et on se rend compte au fil du temps de nos analyses des traités, des partitions, que les éléments de la nature étaient une source d'inspiration extraordinaire.
Oui,
à l'époque,
bien sûr.
Et donc ce sera, je pense, une belle occasion pour clôturer la saison de parler un peu de nature en musique.
L'ouverture des éléments, le chaos, c'est une pièce extraordinaire.
Extraordinaire de 8 à 10 minutes.
C'est incroyable.
C'est presque une pièce à part entière. C'est une sorte de résumé, on va dire, oui, de cette pièce. Et puis il y a tout le reste, l'air, le feu, l'eau, etc. Mais c'est vrai que c'est une œuvre très singulière. Et je crois très 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 peu jouée. Et donc c'est pour ça que je vais m'empresser de la programmer pour ce dernier concert.
Et puis je crois que vous avez aussi des dates à l'automne avec l'ensemble Antifona, parce que vous êtes chanteur et vous continuez à chanter avec le chœur Antifona de Roland Das Mouleka. Vous serez à Foix le 14 novembre avec,
oui,
un programme Amour sacré, Amour profane.
Oui.
C'est quoi le programme exactement ?
Alors sincèrement, ça change un petit peu tout le temps.
Bon.
C'est Roland Das Mouleka qui fait ce programme et à chaque fois on le change. C'est un programme qu'on chante depuis longtemps mais qu'on laisse parfois pendant 6 à 7 mois. On revient après dessus.
Et puis plus tard, le 21 novembre à Rodez, cette fois-ci vous serez de nouveau en concert avec l'ensemble Antifona.
Tout à fait.
Il y a une troisième œuvre au programme de votre concert du 5 octobre avec le consort Apollon et nous allons en donner aussi un petit aperçu. D'autant plus que l'œuvre en question est la suite numéro 3 en Ré majeur BWV 1068, c'est-à-dire celle d'où est extrait ceci.
Thank you.
Vous aurez reconnu le fameux aria de la suite numéro 3 en ré majeur BWV 1068 de Jean-Sébastien Bach, certainement une de ses compositions les plus connues du grand public. Là, c'était une version de l'Académie de Saint-Martin-des-Champs, dirigée par Sir Neville Mariner. Voilà donc pour le concert Apollon et Clément Lanfranchi. Et comme il nous reste quelques minutes, nous allons annoncer le prochain et dernier concert lecture de la saison Musique en dialogue aux Carmélites. Il a lieu ce dimanche 27 septembre à 16h. Bien sûr, à la chapelle des Carmélites de Toulouse. Et devinez qui nous allons y retrouver. Eh bien, encore Jean-Sébastien Bach, mais en étonnante compagnie, Serge Chauzy.
Ah oui, oui, oui. Alors, on retrouve Jean-Sébastien Bach aussi pour des suites, d'ailleurs. Mais cette fois, pour des suites pour violoncelle seul. Le corpus, l'un des corpus les plus fondamentaux de toute la musique, hein, évidemment. Et trois de ces suites seront jouées par la violoncelliste basque Maitane Sébastien, que l'on a déjà vu au Carmélite, qui est une excellente musicienne. Mais elle ne sera pas toute seule et ça ne sera pas un concert lecture comme d'habitude. Ça sera un concert chorégraphique, puisqu'elle sera, si je puis dire entre guillemets, accompagnée par trois danseurs hip-hop. Carrément, donc, alors, ça se justifie tout à fait, de la danse qui accompagne les suites pour violoncelle seule, ce sont des suites de danse, et il est question systématiquement de sarabande, menuet, gigue, bourrée, gavotte, donc, eh bien voilà, ce seront trois danseurs hip-hop, alors sous la direction de Laure Touho, qui est danseuse et chorégraphe, coordinatrice d'ailleurs de la compagnie Elle Dance, qui sera entourée de deux danseurs hip-hop, Fanny Léon et Joss Tao. Et voilà, ces trois personnages entoureront la violoncelliste qui jouera des suites de Jean-Sébastien Bach, encore une fois. Donc, trois suites. La suite numéro 1, la suite numéro 3 et la suite numéro 5.
Donc, Maitane et Sébastien qui a enregistré l'intégrale. Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. C'est un double CD paru sous le label Parati. Je voulais le préciser au passage. C'est la fin de ce numéro de Mélomanie. Et il me reste à remercier mes amis Serge Chauzy et Robert Pénavert de m'avoir assisté dans son animation, fort brillamment comme ils en ont l'habitude. Grand merci à Clément Lanfranchi de nous avoir rendu visite, c'était la première fois, et nous avoir présenté le consort Apollon, l'ensemble qu'il a fondé et qu'il dirige, dont je rappelle le concert lundi 5 octobre à 20h30 en l'église Saint-Pierre-des-Chartreux à Toulouse. Tout le programme est dédié à Jean-Sébastien Bach, dont vont être jouées les suites numéro 5 BWV 1070 et numéro 3 BWV 1068, ainsi que le concerto pour deux violons BWV 1043. Vous pouvez vous renseigner sur ce concert et sur le consort Apollon en général en vous connectant au site de Clément Lanfranchi, www.clementlanfranchi.com. Je rappelle aussi que vous pouvez vous informer et réserver vos places, s'il en reste, au dernier concert de la saison de musique en dialogue au Carmélite, lui aussi dédié à Jean-Sébastien Bach. Deux danseurs hip-hop vont danser sur ses suites pour violoncelle ce dimanche 27 septembre à 16h à la chapelle des Carmélites. En vous connectant au site www.musiqueandialogue.org, vous pouvez réserver vos places. Et enfin, pour réserver et acheter vos places à l'une des 7 représentations de Così fan tutte au Théâtre du Capitole, les 26 et 29 septembre, ainsi que les 2, 4, 7, 9 et 11 octobre, une seule adresse à consulter, www.theatreducapitole.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine musicale.